Donc, bonjour à tous. Je me présente, donc Uriel Azan. Je suis professeur de virologie à l'université Paris 7 et j'ai l'habitude d'enseigner la virologie depuis quelques années à Bac plus 2, 3, 4, 5, voire à Bac plus 8. Et on m'a donné la mission de vous résumer l'introduction à la virologie que je fais à Bac plus 2 en 7h30 en 3 quarts d'heure. Donc on va essayer de voir ça. L'avantage, c'est qu'au niveau où vous êtes, et vous m'excusez de dire ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails moléculaires que je connais bien et qui sont très intéressants. On va plutôt faire une visite assez large du monde de la virologie, notamment avec des choses qui vous parlent. Par exemple, si je vous présente ces jeunes filles qui font de la danse avec un masque, vous ne savez pas ce que ça représente, mais c'est l'époque où le SRAS a émergé en Chine, et où, pour des mesures de veille sanitaire, les gens étaient obligés de porter un masque. Et on se retrouve, un siècle après, à peu près à ce qui se passait pendant la grande épidémie de grippe espagnole du début du XXe siècle, où les gens portaient des masques aussi. L'autre exemple, eh ben, c'est ça, vous ne voyez pas très bien peut-être, mais c'est une microscopie électronique d'un virus qui vous parle aussi, parce que c'est l'Ebola. C'est le virus Ebola, sous forme de fil, c'est un filovirus. Ici, c'est un autre virus qui pourrait vous parler, puisque c'est le virus qui vous donne la rougeole ou les oreillons, c'est la même famille, ou celui qui, chez votre chien, va provoquer la maladie de Carré. Et puis enfin, cette diapositive que j'ai tirée sur Internet, évidemment, illustre quelque chose de très classique, c'est que finalement, les virus, je vous ai parlé du SRAS, émergent et arrivent régulièrement de nouveaux virus. Et là, je parle, vous voyez, il y a un moustique qui menace de transmettre chikungunya à cet oiseau, et l'oiseau lui dit qu'il s'en fiche parce que s'il le pique, il va attraper la grippe aviaire. Bref, grippe aviaire, chikungunya, SRAS, tout ça, c'est des choses qui vous parlent, parce que c'est de la virologie concernant des virus nouveaux, a priori, et dont on parlera. Donc je fais un petit résumé de ce que je vais vous présenter. Donc je vais faire un peu d'histoire des virus pour vous raconter un petit peu comment étaient perçus les virus dans le temps passé, dans les temps passés. Ensuite, on va identifier est-ce que c'est qu'un virus, parce que c'est pas forcément clair pour chacun d'entre vous. Ensuite, je vous parlerai très rapidement, parce que c'est excessivement compliqué, de la classification des virus, et surtout, je vous expliquerai pourquoi il est important de les classer. Enfin, on réfléchira à des choses qui vont plus vous parler peut-être, c'est comment un virus infecte-t-il et qu'est-ce qui se passe quand on est infecté par un virus et pourquoi c'est transmissible, pourquoi c'est contagieux. Et puis enfin, et je ne sais pas si on aura vraiment le temps d'aller jusque-là, mais j'aimerais bien parce que ça vous illustrera des exemples très précis de réussite virale, comme j'appelle ça, de choses qui nous concernent directement. Et puis on conclura sur le monde viral et la capacité que nous avons de le dominer, de nous en débarrasser, ou dites-le comme vous voulez, mais bref, d'essayer de mettre de côté toutes les pathogénies induites par les virus. Alors si je fais un peu d'histoire, et j'ai résumé très simplement, vous savez qu'au fur et à mesure, dans les temps passés, il y avait des grandes épidémies qui dévastaient les grandes régions de la planète. Vous aviez des épidémies provoquées par des bactéries, l'exemple typique c'est la peste et le choléra. Mais vous constatez dans l'histoire que les épidémies d'origine virale, à part la variole, parfois la rage qui traînait par-ci par-là, les grandes épidémies sont plutôt de type bactérien par le passé. Et puis on progresse au cours du temps, et si vous lisez ici, vous voyez qu'au début du XXe siècle, on commence à apercevoir des noms de virus qui apparaissent jusqu'à nos jours, avec les fameuses épidémies de grippe aviaire qui menacent tous les ans. C'est récurrent, on en parle à la télé depuis 2-3 ans, mais sachez que c'est récurrent tous les ans depuis des dizaines d'années. Et avec des virus comme Ebola, la polio dont on parlera, le virus du sida qui est la plus grande pandémie voulant dire épidémie mondiale, pandémie virale du XXe siècle et peut-être du XXIe, le virus West Nile qui a émergé aux États-Unis, et puis le SRAS aussi en Chine, et enfin la grippe aviaire. N'oublions pas non plus les virus qui sont assez classiques auxquels vous ne pensez pas, les fièvres d'origine virale provoquées, transmises par des insectes comme la fièvre dengue et la fièvre jaune, les hépatites virales qui, je vous rappelle, touchent des centaines de millions de personnes dans le monde, et qui sont à l'origine des hépatocarcinomes, donc des cancers du foie, et qui sont donc des virus très graves. Les virus herpès, on en parlera à la fin. Vous connaissez l'herpès qui vous fait des boutons de fièvre sur les lèvres. Sachez que l'ensemble des virus herpès correspond à une famille virale pour lesquelles nous sommes tous séropositifs, ou presque. Dans la salle, il y a 90% des gens qui ont été infectés par le virus de la varicelle, 60 ou 70 ou 50% qui ont été infectés par l'herpès simplex, etc. Et puis d'autres qui sont moins connus, mais qui sont très, très importants, les virus des papillomes. Alors les papillomes, ça vous fait des verrues. ça vous fait des papillomes, mais c'est aussi le cancer du col de l'utérus. Et puis les virus des diarrhées, ça fait rigoler quand on en parle comme ça, mais les gastro-entérites virales aiguës, comme on le dit scientifiquement, ça tue 1 million d'enfants par an. Ça vous fait des grippes intestinales chez vous, c'est pas très grave, mais c'est un problème de santé mondiale. Donc ici, vous voyez, c'est le pendant de la photo que je vous ai présentée sur la première diapositive. Ce sont des jeunes filles qui étudient au début du XXe siècle avec des masques pour éviter de propager la grippe qu'on appelait à l'époque espagnole, mais qui, comme toute pandémie grippale, est arrivée par l'Asie. Donc si on fait une constatation sur les grandes épidémies au cours du temps et au début du XXe siècle jusqu'à maintenant, on s'aperçoit que les virus apparaissent de plus en plus en tant qu'épidémie. On s'aperçoit en plus que vous aviez, au Moyen-Âge et avant, des épidémies, certes, mais qui étaient localisées, alors qu'on voit apparaître dorénavant, au XXe siècle et après, des épidémies qui ont des risques de dissémination mondiale. L'exemple typique, c'est le sida. Alors on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'avant, il n'y avait pas autant que ça d'épidémies virales? Est-ce que vous avez une réponse? Et pourquoi, surtout maintenant, on voit de moins en moins d'épidémies, de très grandes épidémies bactériennes? La réponse, elle est simple, c'est qu'avant, il n'y avait pas les antibiotiques, et les antibiotiques sont arrivés au XXe siècle, d'une part. Et d'autre part, les virus n'ont commencé à être identifiés et distingués en tant que virus que très tard dans l'histoire, c'est-à-dire que fin XIXe, début XXe siècle, on peut enfin décrire ce qu'est un virus, et donc l'identifier. Ce que je veux dire, c'est que dans les temps passés, il y a eu certainement des épidémies virales, mais qu'il était impossible de les identifier en tant que telles. Les progrès en science et en biologie moléculaire notamment ont permis d'identifier, de mesurer, de détecter beaucoup plus facilement les virus et donc de se rendre compte que beaucoup des épidémies que nous rencontrions sur la planète étaient d'origine virale. Alors qu'est-ce que c'est qu'un virus et qu'est-ce que ça veut dire un virus? À l'origine, le mot vient du latin et veut dire tout simplement poison, ce qui ne veut pas dire grand-chose dans l'absolu en termes scientifiques. Ce n'est que plus tard, au fur et à mesure de l'évolution des siècles, que vous voyez des définitions un petit peu plus précises. Et surtout, notez bien la date, fin XIXe siècle, 1892, les débuts de la virologie moderne avec ces deux savants russes, dont j'ai mis le nom ici, et sur lesquels on reviendra juste après. Avant de définir un virus, grâce à ces deux savants, il faut savoir qu'au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle, la notion de germe n'existait pas. Ce sont deux très grands savants que sont Koch et Pasteur. Koch, vous le connaissez peut-être moins que Pasteur parce qu'il n'est pas français, mais Koch, c'est lui qui a identifié le bacille de la tuberculose et le fameux vaccin que vous prenez, le vaccin que vous faites contre la tuberculose, ça vient de son vaccin à lui. Et Pasteur et Koch, en même temps, ont élaboré la théorie germinale des maladies infectieuses. C'est-à-dire qu'à l'origine, avant, on ne savait pas que les maladies infectieuses étaient dues à des germes. On pensait qu'il y avait une génération spontanée des pathologies et des germes qui étaient associés. Et il a fallu, d'une part, l'invention du microscope, évidemment, et d'autre part, la mise en place de critères de Koch et Pasteur pour identifier des agents pathogènes à l'origine de maladies infectieuses. Ces critères étaient simples. Le microscope venait d'être inventé, ces agents infectieux étaient visibles au microscope. Mais pas à l'œil nu, sous-entendu, bien sûr. Deuxièmement, ces agents infectieux pouvaient être cultivés sur un milieu approprié. Et surtout, ces agents pouvaient être retenus sur un filtre. En fait, le filtre Chamberlain. Chamberlain, c'est un élève de Pasteur qui avait inventé un filtre qui permettait de purifier les eaux. Et c'est celui que vous utilisez dans vos maisons pour purifier. Le brevet dérive de ça. Hein. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc en gros, visible au microscope, qui est retenu sur un filtre et qui peut être cultivé, c'est un agent infectieux. Donc au début du XXe siècle, fin XIXe, on était très contents. On avait enfin une relation entre agents pathogènes, maladies infectieuses. Et puis Pasteur, vous le savez, historiquement a travaillé sur la rage. Et en même temps qu'il élaborait sa théorie germinale, se rend compte, dès 1881, que pour la rage, ça ne se passe pas comme ça. C'est une pathologie qui répond à certains critères du postulat de Koch et Pasteur. Donc c'est un agent pathogène, infectieux, mais il est invisible au microscope et il ne peut pas se cultiver sur un milieu artificiel. Alors là, c'était un petit peu bizarre. Et c'est là où l'élève de Pasteur, Chamberlain, grâce à son filtre, a pu mettre en évidence que les agents infectieux, comme le virus de la rage, étaient des agents infectieux, certes, mais qui passaient le filtre de Chamberlain, alors que les bactéries ne le passent pas. Sous-entendu, les virus, tels qu'ils étaient définis juste après et en même temps, j'allais dire plutôt, étaient des agents infectieux, des germes infectieux, mais qui étaient trop petits par rapport à plus petits que des bactéries et trop petits pour être retenus sur un filtre. On les appelait donc des agents infectieux ultra-filtrables. Ça, c'était de la théorie concernant les germes et les pathologies qu'ils développaient. D'un côté, les germes retenus, les bactéries, et d'autre côté, les germes non retenus par le filtre, qui étaient les virus. La preuve définitive a donc été apportée par ces savants russes dont je vous ai parlé précédemment. Ces deux savants russes qui ont utilisé un virus, alors on sait que c'est un virus maintenant, mais qui ont travaillé sur une pathologie de la plante, qui est ce qu'on appelle une pathologie due à un virus de la mosaïque du tabac. C'est une mosaïque, c'est-à-dire que si la pathologie touche la feuille de tabac, vous voyez des marbrures. Alors vous ne voyez pas très bien ici, avec la lumière, vous avez des marbrures sur la feuille, et l'incidence est très importante parce que ça peut détruire les plantations. Donc ces savants russes ont fait un broyat de cette feuille infectée, l'ont passé sur le fameux filtre de Chamberlain, donc qui retient les bactéries mais pas les choses plus petites, ont inoculé ce filtre sur des plants de tabac sains, et ils ont réussi à voir quelques semaines, quelques jours après, que ces plants de tabac sains étaient à nouveau, présentaient à nouveau cette pathologie. Donc grâce à cette démarche scientifique très juste et très pragmatique, ils ont mis en évidence la notion de contagium virum fluidium, ça veut dire un agent contagieux ultra-filtrable. Et c'est la première définition et identification d'une pathologie induite par un virus, donc sur un modèle de virus de plante. Grâce à cette technologie, et là c'est beaucoup plus important, on va s'apercevoir, donc on prend un broyat d'un tissu, on le passe sur le fil de Chamberlain, on récupère et on inocule un autre animal, un autre plant de tabac, un autre être, et on s'aperçoit que finalement, pas mal de pathologies qui étaient y compris trouvées chez l'homme ou chez l'animal, étaient dues à des virus, c'est-à-dire à des agents infectieux ultra-filtrables. Ici, vous avez donc la mosaïque du tabac dont je viens de parler juste à l'instant, mais aussi la fièvre aphteuse, qui touche les animaux, vous le savez, avec l'épidémie qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. La fièvre jaune, une des premières pathologies humaines, qui avait été démontrée comme transmise par des moustiques et qui pouvait toucher le singe ou l'homme. Et la première pathologie vraiment humaine avec la poliomyélite, très très importante. Et puis, chose très très, très importante aussi d'un point de vue scientifique, la première mise en évidence que le cancer pouvait être transmissible, certains, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, certains cancers pouvaient être transmissibles, et dès le début du XXe siècle, il a été démontré grâce à ce système que certains cancers chez les oiseaux, des cancers qui sont des sarcomes ou des leucémies, pouvaient être transmis par des virus. Donc vous voyez l'importance du monde de la virologie, puisque si je résume un peu ce que je viens de vous dire, il y a des critères très simples. Donc toute cellule vivante, végétale, animale et même les bactéries, peut être infectée par un virus. Vous avez des virus des végétaux, des animaux et des virus des bactéries. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la grosse différence par rapport aux bactéries, c'est qu'un virus ne se voit pas au microscope optique. Attention, j'insiste bien, hein, au microscope optique, à l'époque il n'y avait que ça, ne se cultive pas alors qu'une bactérie se cultive et est plus petit qu'une bactérie car il n'est pas retenu par le fil de Chamberlain. Avec cet ensemble de critères, vous pouvez définir un virus. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant que ça au virus? Évidemment, c'est une question un peu basique mais à laquelle il est important de répondre. Que font les virus? Alors là, c'est très résumé, c'est pas forcément un jour, parce que ça varie un peu tous les ans, et heureusement vers le bas, avec les nouveaux vaccins qui apparaissent en particulier. Les agents infectieux en général, et les virus en particulier, sont impliqués dans des maladies infectieuses qui provoquent, allez, entre 15 et 20 millions de morts par an sur la planète. Dont à peu près 6 pathologies représentent 90% des mortalités. Là, c'est un peu rangé par ordre de top mortalité, si j'allais dire comme ça, si je peux dire ça comme ça de façon un petit peu cynique. Ici, vous avez les maladies respiratoires qui sont souvent d'origine bactérienne, mais aussi virale avec la grippe et les fameux virus respiratoires syncytiaux. Donc c'est ce qui fait la bronchiolite chez les nouveau-nés. Mais le HIV qui fait vous verrez peut-être à la fin, cette année, c'est l'une des rares années où le virus a tué moins en 2007 que 3 millions de personnes. On est à 2,4 ou 2,5. Et puis ensuite, vous avez la tuberculose qui traîne toujours. Je vous ai dit qu'il y avait les antibiotiques. Il n'y a plus d'épidémie mondiale de tuberculose ou d'agents bactériens. Mais il y a encore des épidémies localisées. Le paludisme qui tue énormément, mais là, ce n'est pas un virus, c'est un eucaryote unicellulaire. Et la rougeole, ça, vous ne le savez pas, certainement, mais la rougeole tue encore entre 900 000 et 1 million d'enfants par an sur la Terre, alors qu'il y a un vaccin OMS qui est distribué dans le monde entier. Ce que je veux dire, c'est qu'avant le vaccin OMS, la rougeole tuait entre 4 et 5 millions d'enfants sur la Terre. 90% de ces pathologies sont bien sûr dans des pays en voie de développement, parce que nous avons, nous, une couverture médicale qui nous permet de nous protéger un minima, notamment contre la rougeole et les virus des diarrhées, que j'ai oublié de citer ici. Et un autre rappel, c'est que n'oubliez pas qu'environ 15 à 20% des pathologies cancéreuses sont dues à des agents infectieux. Notamment, vous savez qu'Helicobacter pylori provoque le cancer de l'estomac, et que beaucoup de virus, enfin pas beaucoup, mais pas mal de virus provoquent des cancers. Les virus des hépatites, notamment la B et la C, provoquent des carcinomes hépatiques. Il y a des centaines de millions de gens qui sont touchés par le monde, et une proportion d'entre eux risquent un carcinome hépatique, un cancer du foie. Les papillomavirus provoquent les cancers de l'utérus, mais des cancers de toute la sphère anogénitale, que ce soit chez l'homme ou la femme. Et donc n'oubliez pas que les cancers peuvent aussi être dus à des agents infectieux. Donc l'importance des agents infectieux, elle est là. C'est les pathologies qu'ils provoquent et la mortalité qu'ils provoquent. Si on fait une échelle de Richter, une sorte d'échelle de Richter comparée par rapport à ce que vous connaissez sur les tremblements de terre, voilà par rapport aux pathologies qui tuent, les pathologies virales avec le 7 sur l'indice de Richter de cette échelle, c'est 100% des mortalités dues à des agents infectieux. Vous voyez que le virus du sida est le top, puisqu'il est à 6 et quelques sur le 7. Vous voyez qu'il y a des pathologies qui sont très très importantes et que vous n'imaginiez pas. Donc ici, c'est les hépatites virales B et C. Ici, c'est la rougeole. Ici, c'est la bronchiolite. Ici, c'est la grippe. Plus bas, vous avez des virus qui vous parlent peut-être. Ebola. Les hantavirus, ce sont des virus qui vous donnent des fièvres hémorragiques très très graves. Donc ça, c'est vers le bas. Il n'y a pas beaucoup de cas. Et on peut constater quelque chose de très important, c'est que cette échelle n'est pas fixe. Déjà, heureusement, il y a des choses qui baissent. La poliomyélite, qui était à 5 il y a quelques années, descend à moins de 2,5, 2,5, 3. Donc là, c'est un gros progrès, il y a moins de 4 poliomyélites sur la planète entre 1998 et 2004. Par contre, on voit des choses qui arrivent, qui montent de plus en plus, et là, ça commence à devenir assez important. Le virus Fresnel, qui était vraiment à 1,5 sur l'échelle et qui monte maintenant aux alentours de 3,5. Et le virus de la fièvre dingue, qui était plutôt là, donc là c'est 4,5 et qui monte maintenant à 5,5. Ça veut dire, alors excusez-moi, j'ai oublié, et puis des choses qui progressent, les rotavirus et les papillomavirus, qui sont, comme vous voyez, très très haut sur l'échelle. Ça veut dire des centaines de millions de cas sur la planète, et des milliers de morts par an, voire des centaines de milliers. Et là, j'ai mis dans cette couleur-là, parce que là, il y a un progrès qui vient d'arriver, puisqu'il y a maintenant, depuis très peu de temps, des vaccins contre ces virus. Et puis, dernier cas, le SRAS, qui, lorsqu'il est apparu en 2002, est monté très vite à un peu moins de 3 sur l'échelle de Richter, et qui, de nos jours, est maintenant inapparent et pratiquement éradiqué, puisqu'on a réussi à le contenir. Alors, premier commentaire, vous voyez que les infections virales sont très importantes. Deuxième commentaire, c'est que ces infections virales, malheureusement, c'est pas constant. Il y a des virus nouveaux, comme le SRAS. Il y a heureusement des virus qu'on arrive à combattre, comme la polio. Et puis il y a malheureusement des virus qu'on connaît depuis longtemps, qui redeviennent très dangereux. Et puis heureusement, je reviens sur le heureusement, il y a des virus qui sont très très graves, qui provoquent des pathologies très graves, qu'on arrive enfin à combattre après des années et des années de recherche pour obtenir un vaccin. Donc c'est pour ça qu'il est important de s'occuper du monde de la virologie, de connaître ce monde, et donc il est essentiel aussi d'être capable de les détecter et de les mesurer. Alors le problème de fond pour détecter et mesurer un virus, c'est que si on fait une échelle de taille, vous avez ici un atome, ici une petite molécule, ici les protéines, et vous commencez à voir le monde de la virologie qui va aller là. Ça va de 10⁻⁹ mètres jusqu'à quelques centaines de nanomètres, donc 10⁻⁷ à peu près. Poxvirus, par exemple, c'est le virus de la variole. Ce que vous constatez, c'est qu'en fonction des techniques de biologie qui sont disponibles, La microscopie optique, celle que vous avez dans vos laboratoires si vous êtes en BTS, que vous faites des TP, ça s'arrête aux bactéries. En dessous d'une bactérie, d'un micron, vous avez du mal à voir quelque chose. Un virus est plus petit qu'une bactérie. Ce qui veut dire que pour détecter un virus, il faut soit avoir un microscope électronique, et ça on n'en a pas eu avant les années 50, 60, ou 30, 40, 1900, ou être capable de faire de la cristallographie au rayon X, ça c'est une technique très difficile et très complexe, ou d'être capable de faire de la résonance magnétique nucléaire. Et ça, c'est évidemment pas facile à faire dans les laboratoires, et encore moins dans les labos d'analyse médicale, bien sûr. Ce qui veut dire que pour détecter et mesurer les virus, on a été pendant très longtemps, pendant des dizaines d'années, confronté au problème de la taille du virus. Trop petit pour être identifié. Les moyens qui sont mis en œuvre sont des moyens modernes de biologie moléculaire, du gène notamment, de génie génétique, mais qui sont complexes parce qu'elles nécessitent des techniques de biologie moléculaire un peu poussées, mais qui sont devenues maintenant des techniques de routine, y compris dans le fameux LAM, laboratoire d'analyse médicale, où maintenant les détections de virus se font en routine avec des robots. Mais par des techniques, j'insiste lourdement, des techniques de biologie moléculaire qu'il a fallu mettre au point pendant très longtemps. Alors on n'a toujours pas répondu à une question très importante, donc on a identifié les virus historiquement. On a discuté un petit peu l'incidence qu'ils ont en pathologie humaine. Je m'excuse, je ne parle pas des animaux ni des plantes, je restreins aux hommes. Donc leur incidence en pathologie humaine. J'ai expliqué que c'était très difficile de les détecter parce qu'ils sont trop petits. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un virus ? Première question, est-ce que c'est un microbe ? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était plus petit qu'une bactérie classique. Ici, c'est un coq gramme plus, un staph. Ce staph fait 1 micron, 10⁻⁶ mètres. Les virus, alors évidemment je mets à part ce fameux virus qui a été identifié il y a quelques années, qui infecte des amibes et qui est pratiquement plus gros que la plus petite des bactéries, mais les virus sont toujours plus petits que les bactéries, avec des tailles qui vont être de quelques dizaines de nanomètres, donc 10⁻⁹ mètres, un nanomètre, jusqu'à quelques centaines de nanomètres pour le virus de la variole par exemple, et celui-ci qui est très très gros. Donc c'est déjà en termes de taille, c'est plus petit qu'un microbe. Ensuite, si je compare avec une bactérie, est-ce qu'un virus est un micro-organisme ? Alors sachez qu'un virus ne pousse jamais sur un milieu artificiel, sachez qu'un virus ne se divise jamais en deux, comme le font les bactéries, on appelle ça cis-cis-parité. Un virus ne contient jamais ADN et ARN, mais l'un ou l'autre, et le « ou » étant exclusif. Vous savez que les bactéries contiennent l'ADN de leur génome plus les ARN messagers de transfert ribosomique, les deux. Chez un virus, il y a l'un ou l'autre, mais jamais les deux. Donc ça, c'est déjà très original. Ensuite, vous savez que les bactéries, ainsi que nous, bien sûr, sommes capables de traduire nos ARN messagers pour faire des protéines. Les virus en sont incapables. Et puis enfin, quelque chose qui vous parle le plus, je pense, les bactéries sont sensibles aux antibiotiques, alors que les virus ne le sont pas. Ça, c'est clairement le cas. C'est pour ça que vous avez beaucoup de publicité actuellement pour dire que les antibiotiques ne doivent pas être obligatoires quand vous avez des infections non déterminées. C'est vrai. Cela dit, est-ce que vous savez pourquoi votre médecin vous donne des antibiotiques quand vous avez la grippe ? Je pense que vous ne savez pas. Alors beaucoup diront parce que le médecin prescrit à tort et à travers parce qu'il faut mettre des antibiotiques. Non. La vérité, c'est que souvent, si vous avez une infection par le virus grippal, si vous voyiez l'effet que ça fait sur vos bronches, vous comprendriez. C'est qu'en fait, ça ouvre le passage pour toute bactérie pathogène contre laquelle vous êtes naturellement protégé quand vous n'avez pas la grippe. Donc les antibiotiques, c'est pour les infections bactériennes secondaires quand vous avez la grippe. Et c'est souvent le cas quand c'est des infections du tractus respiratoire supérieur par des virus. Donc si je reviens à ce que je voulais vous expliquer ici, c'est qu'avec tous ces critères-là qui définissent un être vivant ici qui est une bactérie, ce serait pareil pour une cellule eucaryote comme les nôtres, vous voyez qu'aucun des critères ne correspond. Donc un virus est-il vivant ou mort ? Je vous laisse répondre vous-même, c'est un débat qui est largement sur la place scientifique actuellement et pour lequel personne n'a de réponse et très très précise. A priori, un virus n'a pas un comportement de micro-organisme comme une bactérie, c'est donc quelque chose à part. Alors si c'est à part, est-ce qu'on peut le définir et comment ? Alors déjà, ça, c'est quelque chose qui est spécifique des virus, c'est que tous les virus, alors que certaines bactéries le sont, mais pas toutes, tous les virus sans exception sont des parasites obligatoires d'une cellule. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un virus tout seul, dans l'air ou dans la nature, ne pourra jamais se multiplier et transmettre une maladie. Il ne pourra transmettre une maladie et se multiplier que si, et seulement si, il trouve un hôte susceptible pour l'infecter. Ensuite, les virus ont une structure particulière, c'est-à-dire qu'on parle de particules virales et non pas de cellules virales. Ça n'existe pas, la cellule virale. En gros, qu'est-ce que c'est qu'une particule virale ? C'est un génome, donc des gènes du virus. Et la grande particularité, c'est que le génome du virus peut être soit de l'ADN ou soit de l'ARN. Or, vous savez, vous avez eu des cours de biologie, évidemment, que tous les génomes des cellules eucaryotes, bactéries ou cellules eucaryotes comme les nôtres, sont des génomes d'ADN double brin. Chez les virus, vous avez tous les génomes possibles et imaginables, dont des génomes ARN, ce qui n'existe pas chez nous, bien sûr. Deuxième chose, cet acide nucléique, ce génome, est protégé par un ensemble de protéines avec éventuellement un peu une membrane lipidique. Je ne rentre pas dans les détails, mais cet ensemble de protections confère à ce génome une protection optimale pour qu'il puisse être transmis. Donc c'est en gros un virus, c'est quelque chose, c'est un génome avec un contenu génétique viral qui est protégé idéalement de tout ce que la nature pourra leur faire. Donc je vous l'ai déjà dit, les virus sont incapables de croître et de se diviser seuls, sous-entendu. Et ça, c'est un peu plus technique. Ceux qui sont un petit peu dans la biochimie comprendront. Il n'y a aucune voie du métabolisme énergétique chez les virus. Ils sont incapables de fabriquer de l'ATP et ils sont incapables de faire de la traduction. Donc si on définit les virus sur ces critères, on obtient quelque chose, que je ne peux pas dire un être vivant, bien sûr, qui est complètement à part de ce qu'on connaît du monde vivant. Voilà, ça donne ça. La structure particulière, c'est ça. Ici, vous avez un ensemble de particules virales qui sont alors dessinées, c'est un petit dessin, mais il est juste. Il n'est pas forcément à l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a des virus qui ne sont pas forcément à la bonne taille les uns par rapport aux autres, mais ici, vous auriez un adénovirus. Ici, vous auriez un virus de bactéries. Ici, vous auriez le virus Ebola. Ici, vous auriez le virus herpès, etc., etc. Ici, vous auriez l'hépatite B. Ça, c'est juste. Donc, vous comprenez ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous avez une particule virale. Donc ici, c'est des protéines qui entourent un génome protégé. Ici, c'est une membrane lipidique qui entoure des protéines qui protègent le génome. Bref, on définit la particule virale comme ça. La taille de ces virus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est entre 10 à 20, jusqu'à 100 à 200 nanomètres. Vraiment très très petit. Ce qu'on peut faire comme commentaire sur cette figure, c'est que ces virus, même si on peut les définir par la particule, par le fait qu'ils soient parasites obligatoires, on constate que ces définitions générales ne suffisent pas parce que ces virus sont très très variés. Vous apercevez que les particules sont très différentes les unes des autres. Donc, les virus varient énormément en termes de structure et en termes de contenu génétique malgré tout. D'où le problème qui s'est posé pour les classer de façon à les ranger dans des boîtes. Alors, c'est pas pour se faire plaisir uniquement scientifiquement de les ranger dans des boîtes, c'est que on imagine qu'un virus qui a une structure donnée et un génome donné va induire une pathologie qui lui est propre. Si vous voulez lutter contre un virus donné, puisque les virus sont très différents en termes de structure et de composition génétique, vous imaginez que lutter contre le virus qui fait le sida, ça va être différent que de lutter contre le virus qui fait la grippe. Conclusion, si vous voulez vous donner les moyens de lutter contre toutes les familles virales, il faut identifier les virus, les classer, les reconnaître pour pouvoir lutter contre. C'est pour ça que les scientifiques s'embêtent à les classer. Alors moi, je ne vais pas vous embêter longtemps avec la classification des virus. Je vais juste vous montrer quelques exemples de virus. Ici, vous avez les virus des gastro-entérites virales, les fameuses grippes intestinales, comme vous appelez ça. Ici, les rotavirus, il y a une forme de roue. Ici, les astrovirus, ça ressemble à une étoile. Ici, c'est les picornavirus, ça c'est une vision après microscopie électronique, cristallographie rayon X. Les picornavirus, c'est l'hépatite A, c'est les rhumes à rhinovirus. Et c'est aussi la fièvre aphteuse, et puis c'est aussi la poliomyélite. Ici, vous auriez les papillomavirus. Les papillomes, je vous rappelle, c'est le cancer du col de l'utérus. Ici, vous auriez l'adénovirus. Alors ça, c'est quand vous avez des gros rhumes, vous dites c'est la grippe. En fait, ça peut être l'adénovirus. Quand vous avez une gastro-entérite virale, vous dites j'ai une grippe intestinale. Ça peut être un de ces trois virus, mais ça peut être plus rarement celui-ci aussi. Et puis ici, vous avez le virus de l'hépatite B. Donc ça correspond à un certain type de structure virale qui correspond à des pathologies que je viens de vous citer. C'est quand même des virus qui ont une incidence pathologique assez grande chez nous. Et là, c'est pareil, sinon pire, c'est d'autres formes de structures virales. Donc ici, coronavirus, parce que ça a l'air d'une couronne un petit peu autour, microscope électronique. Coronavirus, par exemple, c'est les gros rhumes, pareil. Quand vous avez un rhume que vous pensez être une grippe, c'est ni une grippe ni un vrai rhume, c'est un gros rhume à coronavirus. Ça ne vous parle pas trop, mais si je vous dis SRAS, oui, là, ça vous parle. C'est un virus. Le SRAS appartient à la famille des coronavirus. Ici, c'est les paramyxovirus, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est rougeole, oreillon et la maladie de Carré du chien. Ici, l'influenza, c'est la grippe, tout simplement. Ici, Ebola, dont j'ai parlé plusieurs fois. Là, ce virus qui ressemble à un obus, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est une forme d'obus, ça c'est la rage. Et puis là, vous auriez les buniavirus. Ce sont des virus qui provoquent des fièvres hémorragiques très graves chez nous, alors qu'ils sont hébergés par les souris ou les rats, et que ça leur fait rien du tout comme pathologie. Donc là, vous avez bien une illustration de la variabilité des structures des virus. Et surtout, vous avez compris que pour un virus donné, vous avez une pathologie donnée, et que ces pathologies n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc cette variabilité virale est associée à une grande variabilité des génomes, mais ça je vais passer vite, parce que c'est un petit peu pointu. Je voulais juste vous donner une notion importante. Nos génomes, à nous et à ceux des bactéries, donc toutes les cellules vivantes de la planète, plantes, bactéries et animales, sont des génomes à ADN double brin. Et chez les virus, vous avez des génomes ARN, ADN, simple brin, double brin, ARN, simple brin, double brin, et vous avez des virus qui sont capables d'avoir des génomes qui oscillent entre ARN et ADN. Donc tout ça pour vous dire, et vous l'avez compris, que c'est très 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 compliqué, et que la classification des virus en fonction de la nature de leur génome est aussi un des critères utilisés pour les classer. Autre point important, c'est que la nature des génomes des virus va définir leur stratégie de réplication dans la cellule. Donc un virus doit rentrer dans une cellule, se multiplie dedans. Et pour se multiplier dedans, il doit utiliser tout ce que la cellule peut lui proposer, puisque c'est un parasite. Un virus qui a un génome ARN ou un virus qui a un génome ADN n'aura pas la même stratégie pour se multiplier dans la cellule. Si vous voulez lutter contre un virus et que vous connaissez sa stratégie de réplication, vous avez des armes de lutte. Si vous ne connaissez pas sa stratégie de réplication, vous n'aurez pas d'armes de lutte efficaces. Donc, si je résume rapidement, parce que ça c'est 2 heures de cours d'habitude, sur la classification. La classification des virus, c'est en partie sur leur structure, ici, les 3 premiers paramètres, le génome, la symétrie et la présence ou pas d'une enveloppe, je résume, des paramètres de structure et ici, des paramètres de stratégie de réplication. Et à la fin, ça vous donne une classification. Alors là, j'ai mis les virus à ARN, mais je pourrais mettre aussi les virus à ADN sur une figure de même type, qui permettent pour un virus donné, une famille donnée, d'avoir des critères de classification extrêmement précis. Et je répète, ça fait 3 fois que je vous le dis, critères de classification extrêmement précis, donc stratégie de lutte antivirale possible. Alors maintenant, là on était resté un petit peu au niveau de ce que c'est qu'un virus, sa structure, on va quand même réfléchir à ce que c'est qu'une infection virale. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il faut que vous sachiez qu'on définit en virologie le spectre d'hôte. Ça c'est un terme très scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire le spectre d'hôte? Alors prenons un exemple. Ça veut dire que le virus du sida ne touchera que les hommes, que l'espèce humaine. Alors que d'autres virus, comme le virus de la rage, toucheront toutes les espèces mammifères vertébrées. Dans un cas, on dira que le tropisme est très large pour la rage, alors que dans l'autre cas, on dira que le tropisme est très restreint, c'est-à-dire que le virus ne peut pas changer d'hôte facilement. Par ailleurs, certains virus ont la capacité d'utiliser des cellules aussi différentes que des cellules d'insectes ou des cellules animales, d'une part, ou des cellules d'insectes et des cellules végétales, d'autre part. Ça, c'est très important, ça correspond à toutes les pathologies qui vont être transmises, pathologies virales, évidemment, qui vont être transmises par des insectes. Et il y en a beaucoup, fièvre jaune, fièvre dingue, etc. Ensuite, dernière chose, les virus des bactéries et les virus des cellules vivantes, des cellules eucaryotes, je veux dire, ne peuvent jamais croiser. C'est-à-dire qu'un virus de bactérie ne peut jamais se multiplier dans une cellule humaine ou une cellule de plante, et réciproquement, le virus de la varicelle, de la rougeole, des oreillons, ne peut pas infecter une bactérie. Alors et de même, un virus de bactérie n'infectera jamais un animal ou une plante. Ça, c'est très général. Donc ça, c'était pour définir le spectre d'hôte. Donc on définit une espèce hôte ou des espèces hôtes naturelles pour le virus, et on connaît un petit peu, comme ça, l'épidémiologie du virus. Le problème de fond en virologie, c'est que l'espèce qui est infectée par le virus peut varier. Quand un virus qui a une espèce d'hôte très restreinte change d'hôte et se retrouve dans un nouvel hôte, eh bien malheureusement ça arrive, et on appelle ça une émergence virale. Par exemple, le sida est une émergence ancienne, puisque c'est certainement un virus qui était spécifique des singes, qui est passé chez l'homme il y a environ 200 ans, 150 ans. Ça, c'est un changement d'hôte. Le virus du sida du singe était spécifique du singe, spectre d'hôte très restreint, et de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, le virus se retrouve dans un nouvel hôte, s'y adapte et développe une autre pathologie qui, 200 ans après, fait le sida. Autre généralité sur les infections virales, vous avez tendance à penser que l'infection virale, c'est juste transmettre un virus à un autre par le bon vecteur. Alors, ce n'est pas suffisant. Sachez que quand vous attrapez le virus de la poliomyélite, vous l'attrapez par voie orofécale, donc par les eaux sales. Et pourtant, quelques mois après, si vous n'avez pas de chance, vous allez avoir une affection et infection du système nerveux central qui va paralyser vos nerfs moteurs et vous allez mourir d'étouffement ou être paralysé des jambes, etc. Entre le fait d'avaler un virus par le tube digestif qui va se retrouver quelques mois, quelques années après dans votre système nerveux central, ça montre que l'infection virale nécessite que le virus trouve son bon hôte par le bon vecteur. Le vecteur ici, c'est les eaux sales. Puisse ensuite échapper à nos mécanismes de défense dont je parlerai après. Et puis une fois qu'il est rentré dans l'organisme, il faut que l'infection puisse être disséminée au sein de l'organisme. Par exemple, le virus du sida, autre exemple, est un virus qu'on attrape par les muqueuses. Il faut arrêter de penser que le virus du sida s'attrape par le sang, c'est vrai, mais 95 à plus du virus du sida s'attrape par les voies muqueuses, c'est-à-dire intestinales, vaginales, rectales. Et c'est un virus qui touche des cellules du système immunitaire. Allez trouver le rapport entre les muqueuses intestinales, vaginales et rectales et les lymphocytes du système immunitaire qui vont faire votre défense immunitaire. Donc là, c'est le même principe. Le virus va rentrer dans son hôte par le bon vecteur et ensuite, il faut que dans l'organisme, le virus soit disséminé au sein de l'organisme. Ça veut dire que entre la voie d'entrée du virus et le fait qu'il touche sa cellule cible, il y a tout un moment et toute une façon pour le virus dont il va détourner les fonctions du corps pour être disséminé dans tout l'organisme. Et puis dernière chose, une fois que le virus est disséminé dans tout l'organisme par la voie sanguine, par la voie lymphatique, par la voie nerveuse, ce sont les trois voies principales, le virus doit se retrouver dans un tissu spécifique pour trouver ces cellules spécifiques. Ce que je veux dire par là, c'est que le virus du sida, si vous l'attrapez par les voies muqueuses, il ne va se répliquer dans votre organisme que dans les cellules qui présentent ce qu'on appelle l'antigène CD4, les cellules du système immunitaire. Si le virus herpès, vous l'avalez, par exemple, vous n'avez aucun risque. Si le virus herpès, vous le mettez sur vos muqueuses, vous risquez d'avoir une infection parce que le virus herpès infecte les neurones sensitifs. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que le fait qu'un virus soit dans un organisme ne suffit pas, il faut qu'il touche le ou les cellules cibles dans lesquelles il peut se multiplier. Dernière chose, une fois que le virus a réussi à faire toutes ces étapes, je vous avais dit qu'il faut qu'il échappe au mécanisme de défense de l'hôte, notre système immunitaire, mais en plus, il faut qu'il arrive à détourner la machinerie cellulaire à son profit. Et j'ajouterais, on sait maintenant que nous possédons dans nos cellules des défenses immunitaires très pointues. Le virus doit être capable de contrer nos défenses intracellulaires aussi. L'exemple le plus typique de la défense intracellulaire antivirale, c'est les voies interférons. Ça, vous avez entendu parler. Donc le virus a touché son hôte, il est rentré dans l'organisme, il a été disséminé dans l'organisme, il touche ses cellules cibles. Et maintenant, on va toucher un problème qui est très très important. Et à mon avis, qui va arriver sur une notion que vous ne connaissez pas. Ici, vous avez un virus qui est rentré dans l'organisme et qui va toucher des cellules dans lesquelles il n'est pas capable de se répliquer. Par exemple, le virus du sida qui va toucher des cellules nerveuses. Ça n'aura aucune incidence, il n'y aura pas d'infection. Mais, excusez-moi, j'ai dit aucune incidence, c'est faux. De temps en temps, un virus va provoquer dans les cellules qu'il va toucher sans s'y reproduire, il va provoquer soit la mort cellulaire, soit sa transformation au sens cancéreux du terme. Donc un virus peut ne pas se multiplier, mais provoquer des lésions sur les cellules. Deuxième chose, un virus peut se reproduire dans une cellule, et dans ce cas-là, il y a trois cas possibles. Le virus va tuer la cellule, après qu'il se soit multiplié. Le virus va se multiplier sans tuer la cellule, et là on commence à avoir un cas très important sur lequel je reviendrai juste après. Et troisième cas, le virus peut se multiplier sans tuer la cellule, mais en la transformant, la rendant cancéreuse. Déjà, vous voyez quelque chose de très important. Ça veut dire qu'un virus, quand il est dans votre organisme, peut persister très longtemps, puisque la cellule dans laquelle il va être produit reste vivante aussi. Ça veut dire que vous êtes capable d'héberger un virus qui va rester en vous pendant très très longtemps, voire toute votre vie. Dernière chose, il y a des virus qui peuvent infecter une cellule et qui vont arrêter leur cycle au milieu du cycle. Ils ne vont pas arriver jusqu'au bout pour fabriquer de nouvelles particules virales. Mais il peut se passer quelque chose de complémentaire, c'est que après réactivation du virus, donc le virus rentre, s'endort dans la cellule semi-permissive, on appelle ça, et après activation, va retrouver ces trois schémas-là, va pouvoir se remultiplier. Ça, c'est encore plus important. Ça veut dire que vous pouvez héberger pendant des années un virus de façon inapparente pour qu'il se réveille des années après, des mois après, des semaines après, de temps en temps. Ça, l'exemple typique, c'est les virus herpès. Les boutons de fièvre que vous avez, c'est typiquement ça. C'est un virus que vous avez toute votre vie dans le ganglion trigéminal qui est derrière le palais et que vous réactivez uniquement quand vous êtes un peu immunodéprimé. Pareil, la femme enceinte qui est cytomégalovirus positif, un autre virus herpès, la femme enceinte légèrement immunodéprimée de par la grossesse va réactiver le cytomégalovirus et ce cytomégalovirus, quand il passe dans le fœtus, peut provoquer des retards mentaux ou des surdités. Et ça, c'est un virus qui suit ce modèle-là. Il est latent, mais il peut se réveiller. Ce que ça veut dire, c'est qu'en virologie, il n'y a pas de porteur sain. Quand on est infecté par un virus, on est asymptomatique. Parce que cela a des conséquences d'être asymptomatique. Ça veut dire que vous avez une persistance clinique du virus dans votre organisme avec, le plus souvent, pas de symptômes. Mais la possibilité d'une résurgence virale avec des symptômes qui apparaissent. Et surtout, ne pensez pas que quand vous êtes asymptomatique, vous n'êtes pas contagieux. Quelqu'un qui porte un virus de façon asymptomatique peut le transmettre à quelqu'un d'autre. Les exemples typiques de ça, c'est les herpès bien sûr, puisque le nouveau-né à l'accouchement peut récupérer l'herpès génital de sa mère et en mourir 3 jours après s'il n'est pas traité très vite. Et ça, donc faut le savoir, hein. Il n'existe pas de virus correspondant à des porteurs sains. Ce qui veut dire, avec cette diapositive précédente et celle-ci, qu'il existe un grand nombre de virus que nous portons en nous et que nous allons garder toute notre vie. Donc, interaction virus-organisme cible, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais passer un peu vite parce qu'on a bientôt fini. Hein, il y avait 10 minutes de retard, mais je vais aller un petit peu plus vite. Ça veut dire que si je reprends ce schéma précédent, ici, que je le reporte au niveau de tout l'organisme. Je prends plusieurs types cellulaires dans lesquels le virus établit des relations telles que je vous les ai décrites juste avant. Ici, vous avez le temps en abscisse. En ordonnée, vous avez la symptomatologie et la production de virus. Vous avez des infections virales, quand vous êtes infecté par un virus donné, qui vont être aiguës. Exemple, vous avez la grippe, vous avez un rhume. Vous êtes malade et puis après vous êtes guéri. Et quand vous êtes guéri, quand vous avez un rhume et puis 3 semaines après un autre rhume, ne pensez pas que c'est le même virus qui ressort. À chaque fois que vous avez un rhume, c'est un nouveau virus. Il y a énormément de variabilité dans les virus des rhumes, donc c'est vraiment des virus comme ça. Et puis il y a des cas où après l'infection aiguë qu'on rencontre tout le temps, vous avez une résurgence tardive du virus avec des symptômes très graves qui peuvent aller à la mort. Et puis d'autres cas où vous avez, après l'infection aiguë, des résurgences passagères du virus tout au long de votre vie avec des symptômes mais qui ne sont pas forcément très graves. Et puis vous avez des derniers cas avec des infections aiguës et vous êtes symptomatique tout au long de votre vie avec des productions virales qui sont limite à détecter ou parfois très importantes. Si je mets des noms derrière tout ça, vous auriez ici la grippe ou les rhumes. Ici, vous auriez la rougeole. Vous ne savez pas que la rougeole a à peu près, enfin, très rarement heureusement, mais dans 10, chez les enfants, à peu près vers 10-11 ans, parfois un peu plus tard, vous avez parfois une résurgence du virus de la rougeole qui fait des encéphalites sclérosantes, subaiguës pour les formes les plus graves, qui tuent sous les formes les plus graves les enfants en quelques semaines, sans que rien puisse être fait. Si vous n'êtes pas vacciné contre la rougeole et que vous avez une résurgence de la rougeole à 10-15 ans, vous risquez d'en mourir ou d'avoir des séquelles nerveuses très très graves. Ici, ce sont les virus herpès dont j'ai parlé. L'exemple, il est très pratique. Hein. Vous pensez au bouton de fièvre, c'est typiquement le virus herpès. Ça veut dire que vous trimballez le virus toute votre vie. Ici aussi, hein. Simplement quand il réapparaît, le risque de mortalité est très fort. Et puis ici, ce serait l'hépatite C. C'est quelqu'un qui a l'hépatite C qui va avoir du virus toute sa vie et qui risque d'avoir des symptômes toute sa vie aussi. Donc tout ça pour vous expliquer que c'est compliqué la virologie et qu'on ne peut pas définir des stratégies de lutte antivirale contre un virus donné facilement. Alors heureusement, si je prends le bon côté des choses, on a un système immunitaire, vous le savez. Un système immunitaire dans le détail duquel je ne rentrerai pas, vous verrez ça beaucoup plus tard si vous continuez les études en biologie. Nous avons un système immunitaire qui est rapide, non spécifique et qui répond tout de suite à une inflammation, enfin qui provoque l'inflammation. En gros, si je me coupe ou si je me cogne ou si je suis infecté par un virus, la réaction immunitaire innée va être la même. Cette réaction immunitaire innée va déclencher la réponse immunitaire adaptée, c'est-à-dire les anticorps et vos défenses spécifiques. Et cette défense, elle est plus lente, elle est spécifique de l'antigène qui vous a attaqué. Et surtout, cette défense immunitaire ici vous donne de la mémoire immunitaire. Et je vous rappelle que la mémoire immunitaire, c'est la base de la vaccination. On essaye de préparer la mémoire de votre système immunitaire de façon à ce que vous répondiez rapidement à un pathogène. Donc si je résume, nous avons un équilibre entre notre système immunitaire et les agents pathogènes, notamment les virus, qui est normalement la résultante de notre bonne défense immunitaire contre l'infection par le pathogène. La pathologie, disease, ça veut dire maladie en anglais, la pathologie sera la résultante d'un déséquilibre entre le système immunitaire et la capacité du pathogène à se multiplier dans l'organisme et à détourner nos défenses. Et donc, nous serons toujours en équilibre avec les pathogènes que nous hébergeons ou qui nous agressent continuellement. Sachez-le, hein. Le moindre déficit immunitaire dans notre organisme et nous avons des réactivations virales de tous les côtés qui arrivent. Si vous êtes un peu immunodéprimé, vous allez avoir des verrues qui vont réapparaître, vous allez avoir des herpès qui vont ressurgir, etc., etc. Alors comment lutter et traiter les infections virales du coup? Comment peut-on faire puisque nous avons un système immunitaire qui est extrêmement efficace, vous le savez, sinon on serait déjà tous morts, mais extrêmement efficace, mais pas suffisant, puisque nous sommes malgré tout malades, et qu'il y a quand même 15 à 20 millions de morts par des infections d'agents pathogènes par an. Donc il y a deux aspects principaux que vous connaissez. La vaccination, très important, on va voir l'historique juste après. Les mesures sanitaires, de veille sanitaire et de santé publique. C'est grâce à ça qu'on a évité la dissémination du SRAS au niveau mondial en 2002. Et si je peux me permettre cet aparté un peu politique, heureusement que la Chine est une dictature, parce que je ne pense pas qu'en France, en 2002, on aurait pu vous imposer de rester chez vous avec des masques pendant quelques semaines, avec des cordons sanitaires. Mais c'est grâce à ces mesures sanitaires très rudes et très rigoureuses que l'épidémie de SRAS a pu être enrayée. Ça, c'est la lutte antivirale vraie. Ensuite, il y a des traitements. Vous savez qu'on peut traiter les maladies virales, même si c'est assez rare, grâce à ce qu'on appelle des molécules antivirales, des molécules très spécifiques des virus qui ne touchent pas les cellules. Alors, on va reprendre un petit peu tout ça, notamment, qu'est-ce que c'est que la vaccination? Alors déjà, la vaccination, la théorie et la pratique existe depuis très très longtemps, puisqu'en Chine, il y a des milliers d'années déjà, qu'on arrivait à vacciner les gens contre la grande pathologie virale dont je vous ai parlé, qui a décimé la planète dans au Moyen-Âge et avant, qui est la variole. Donc ici, ça ne se voit pas bien, mais vous avez quelqu'un qui insuffle par inhalation dans le nez d'un jeune enfant quelque chose qui représente des croûtes de patient qui a eu la variole et qui n'en est pas mort. Et ça s'appelait la variolisation. Il y avait un taux d'échec, bien sûr, puisqu'il y avait 0,2 à 0,3% des personnes inhalées comme ça qui mouraient de la variole, mais 0,2 à 0,3% de mortalité contre 20 à 30% de mortalité quand c'est le variola majeur qui touche la population. Il y avait un net gain de la vaccination par rapport à la pathologie. Ça, ce sont les premiers essais de vaccination purement pragmatique. Bien sûr, il n'y avait aucune connaissance scientifique derrière. Deuxième pas vers les vaccins, c'est le fameux Jenner et le vaccin antivariolique. Grand scientifique dans sa démarche, alors que je vous rappelle qu'à l'époque, en 1796, la notion de virus n'était pas connue encore, pas même celle d'agent pathogène. Jenner utilise une stratégie qui nécessite l'utilisation d'un virus proche, donc le virus de la vache, qu'on appelle la vaccine, d'où le terme de vaccination. Jenner prend des pustules sur des pies de vache qui a eu la vaccine de la vache. Et ces pustules de la vache, il les inocule à un jeune garçon, ici, en mai 96. Et puis, comme c'est un bon scientifique, en 2 mois après, il reprend le même garçon, il prend des pustules de personnes varioliques qui en est décédée ou qui a eu la vraie variole, et il injecte le vrai virus de la variole à cet enfant, 2 mois après. Et l'enfant n'a pas la variole. Alors je passe bien sûr l'éthique de cette expérience scientifique, qui bien sûr ne pourra plus se faire, mais c'est la première expérience de vraie vaccination qui a été faite en 1796 sur cet enfant grâce à la vaccine de la vache. Donc la stratégie qu'on appelle jennerienne, du nom de Monsieur Jenner, c'est d'utiliser un virus d'une espèce proche pour faire une vaccination contre un virus de notre espèce. Alors il a été beaucoup décrié, etc., mais... Et son idée est passée, puisque déjà en 1796, il avait la notion que la vaccination contre la variole permettrait son éradication de la planète. Et il avait raison, puisque je vous rappelle que la variole est la seule maladie éradiquée de la planète en 1977. Et puis, dernier vaccin historique, c'est Pasteur et la rage, bien sûr. Je vous rappelle qu'au moment où Pasteur décrivait des agents pathogènes ultra-filtrables, au moment où la notion d'agent infectieux était développée, Pasteur continuait à travailler sur son vaccin. Donc c'est des moelles de lapin qui sont desséchées, dans lesquelles auparavant il avait injecté le virus de la rage, et il transmet de moelle épinière en moelle épinière de lapin le virus de la rage, et donc il atténue le virus progressivement. Et ça, c'est le premier vaccin de fabrication artificielle qui a été fait sur la planète. Là, il vaccine Joseph Meister, ce petit berger qui avait été mordu par un chien enragé. Et j'ajouterais, ça c'est jamais dit dans les conférences, Pasteur a eu énormément de chance, puisque, vous le savez, un vaccin doit être préventif. Or, vous pouvez vous faire vacciner contre la rage après avoir été mordu par un chien. La réponse, la raison, elle en est simple, c'est que c'est une des rares pathologies où le temps que le virus, vous êtes mordu sur le bras, le virus rentre dans les neurones. Le temps que le virus arrive jusqu'à votre système nerveux central où il va faire la pathologie, il faut quelques semaines à quelques mois. Ça laisse le temps à votre système immunitaire de répondre. Et donc, Pasteur, historiquement, a eu énormément de chances de tomber sur une pathologie comme ça. Il serait tombé sur la grippe, la rougeole ou n'importe quoi d'autre. Se faire vacciner après n'aurait eu aucune incidence. Bref, je vous ai présenté les 3 vaccins historiques, et là je vous présente un résumé des vaccins disponibles en santé humaine. J'aurais pu faire les tableaux en santé vétérinaire, il y a 3 tableaux comme ça si on voulait. Je fais ce commentaire parce que entre les vaccins humains et les vaccins animaux, il y a une différence, c'est que pour les vaccins humains, on n'accepte pas d'échec de vaccination, alors que pour les vaccins animaux, on tolère un échec de vaccination. Donc si je peux faire quelques commentaires, vous avez des vaccins obligatoires que vous connaissez, le fameux ROR. Ici, les vaccins historiques que j'ai mis, poliovirus, rage et puis variole. Et ici, j'ai mis quelque chose, alors un autre commentaire, pardon. Premier vaccin anticancéreux avec le vaccin contre l'hépatite B. Premier vaccin anticancéreux et premier vaccin artificiel fait par génie génétique. Et puis ici, les deux vaccins qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, dont l'un qui est anticancéreux, c'est le vaccin contre les virus papillomes et le cancer du col, et l'autre qui est dirigé contre ce qu'on appelle les rotavirus. Ce sont les virus les plus fréquents pour les gastro-entérites virales du nouveau-né, du nourrisson, qui, je vous le rappelle, tue 900 000 à 1 million d'enfants par an. Donc vous voyez que nous disposons de pas mal de vaccins, même si nous ne disposons pas d'énormément de vaccins finalement. Ici, vous avez les molécules antivirales dont je vous ai parlé précédemment. C'est un autre aspect. Qu'est-ce que c'est qu'une molécule antivirale? C'est une molécule qui va toucher le virus sans toucher les cellules saines. Alors vous comprenez le problème que je vous pose, c'est qu'un virus étant un parasite obligatoire d'une cellule, comment voulez-vous toucher le virus sans toucher la cellule, puisque c'est un parasite? La solution, elle est de trouver chez un virus des cibles qui sont spécifiquement virales, mais qui ne touchent pas la cellule. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire. C'est pour ça que vous avez des molécules antivirales. Je vous les ai listées ici. Notamment, dans le cas du sida, c'est la fameuse trithérapie. Mais ces molécules antivirales, même s'il y en a quelques dizaines ici, vous n'en avez pas des centaines. Et vous n'en avez pas des centaines pour pas mal de raisons dont je vais parler juste après. Donc ces drogues antivirales, pourquoi on en a des dizaines et pas des centaines? Eh bien, c'est tout simplement aussi parce que les virus poussent très vite. Quand nous mettons émergent. Alors qu'est-ce que ça veut dire les virus émergent? Ça veut dire que l'équilibre dont je vous ai parlé précédemment va être largement déplacé en faveur du virus. Parce que le virus va être capable de détourner la réponse immunitaire et parce qu'il va être capable de s'adapter très rapidement à des conditions de milieu qui ont changé. Votre système immunitaire constitue une pression de sélection pour le virus. Vous faites des anticorps, vous développez des cellules qui vont tuer les cellules infectées et le virus va muter tellement rapidement que votre système immunitaire qui est lent n'aura pas le temps de suivre la course du virus. Conclusion, les virus peuvent émerger et comme je vous l'avais dit il y a un petit bout de temps, être capables de s'adapter à de nouvelles espèces ou à s'adapter à de nouvelles conditions et donc réémerger dans de nouveaux hôtes ou recoloniser de nouveaux organismes. Alors, on a atteint les 45 minutes, donc je vais commenter cette diapositive et puis après on s'arrêtera, je vous ferai juste une conclusion à la fin. J'avais d'autres choses à vous présenter sur certains exemples, donc si vous avez quelques questions, je pourrais vous les présenter avec quelques exemples. Notamment, en 89, ce que je viens de vous dire, c'est que les virus ont été définis, a été définie la notion d'émergence pour les virus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un virus émerge? Ça veut dire pas mal de choses différentes, dont je vous ai cité quelques exemples jusqu'à présent. Déjà, donc c'est en 89, des grands comités de virologie, notamment au CDC, Center for Disease Control à Atlanta aux États-Unis, plus grand centre d'épidémiologie au monde, c'est 100 fois Pasteur. Au CDC a été définie cette notion d'émergence en 89. Alors l'émergence, ça peut être un virus nouveau, jamais rencontré dans une espèce. L'exemple typique, le SRAS chez l'homme en 2002. Un virus qu'on n'a jamais vu qui arrive. Ça peut être aussi une maladie qu'on connaît depuis très longtemps et qui devient de plus en plus problématique parce qu'elle colonise de nouveaux territoires et qu'elle devient de plus en plus dangereuse. L'exemple, c'est la fièvre dengue. Je voulais vous en parler, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. La fièvre dengue, en 70, c'était réparti sur ça dans les tropiques. Et puis en 2004, c'est sur ça, parce que les tropiques bougent avec le changement climatique. Et maintenant, la fièvre dengue touche potentiellement, enfin peut toucher, j'ai pas dit touche, pourrait toucher 2,5 milliards de personnes. Il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui sont touchées directement par le virus. Et il y a des milliers de personnes qui meurent de la fièvre hémorragique dengue sur la planète. Ça, c'est une émergence parce que c'est un ancien virus qu'on connaît depuis longtemps, qui colonise de nouveaux territoires et qui devient de plus en plus pathogène. Autre chose, une émergence, c'est un virus qui apparaît dans un nouveau territoire. Exemple, virus West Nile. West Nile, comme son nom l'indique, ça veut dire virus de la vallée du Nil, de l'ouest de la vallée du Nil, c'est un virus africain. Et puis en 99, dans le zoo du Bronx, à New York, à New York, Manhattan, donc dans le Bronx, dans le quartier du Bronx, dans le zoo du Bronx, on trouve des corbeaux morts. Et puis on s'aperçoit après qu'il y a d'autres animaux qui meurent, des vertébrés mammifères cette fois. Et puis on commence à trouver à Manhattan des gens qui ont des encéphalites très graves chez les hommes. Et puis en 2006, Tous les états des États-Unis sont endémiques pour le virus West Nile chez l'être humain. Ça, c'est un virus qui est arrivé à New York, dans l'état de New York, et qui a colonisé tous les États-Unis en 7 ans, avec, en faisant, en provoquant chez une partie des patients des encéphalites très très graves. Ça, c'est une émergence. Ensuite, une maladie qui apparaît dans une région... Pardon, excusez-moi, je viens de vous en parler. Ensuite, une maladie qui était connue chez l'animal et qui apparaît chez l'homme, ça, c'est le grand cas extrêmement classique de la grippe. Sachez que toutes les épidémies mondiales de grippe qu'il y a eu au XXe siècle et qui ont tué des dizaines de millions de gens, c'est pour ça qu'on a peur du H5N1, hein, si ça fait comme la grippe espagnole de 1915, c'est 20 à 40, peut-être même 60 millions de personnes qui en sont mortes, la grippe espagnole du début du XXe siècle. Donc c'est pour ça qu'on a très peur des pandémies de grippe. Et c'est toujours la même chose. Le réservoir animal pour la grippe, c'est les oiseaux. Les oiseaux sauvages et les oiseaux des fermes. Les oiseaux sauvages ont rarement de pathologies, ils portent le virus, ils n'ont pas trop de pathologies, ce sont les réservoirs. Ces réservoirs peuvent permettre de transmettre le virus chez l'oiseau à d'autres hôtes, qui peuvent être des vertébrés mammifères, comme le porc ou l'homme. Et c'est parce qu'en Asie du Sud-Est, vous avez des fermes avec des porcs, des oiseaux et des humains qui sont très proches, très près les uns des autres, que les épidémies de grippe importantes viennent toujours d'Asie du Sud-Est. Et là, ce sont des émergences, cette fois-ci courantes, récurrentes. Tous les ans, on a des risques de pandémie entre des virus aviaires qui vont passer chez l'homme, qui ont des risques de passer chez l'homme, notamment H5N1. H5N1, c'est oiseau assez couramment. Si ça passe chez l'homme, ça fait des pathologies très graves. Et jusqu'à présent, on croise les doigts, on n'a pas encore vu de transmission de H5N1 d'homme à homme. Le jour où ça arrivera, parce que le virus s'est adapté, on est fichu, on retombe sur une pandémie de type 1915. Avec, bien sûr, n'ayez pas peur, des dispositions en veille sanitaire qui sont bien supérieures à celles du XXe siècle, bien sûr. Et puis, dernière chose, le sida correspond à une émergence virale, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une émergence très ancienne, des années, il y a 200 ans ou 150 ans à peu près. On est certain, hein, les analyses épidémiologiques et phylogénétiques, hein, c'est les termes scientifiques, démontrent à coup sûr qu'il y a eu au moins 4 cas de transmission du singe vers l'homme, du virus de singe qui a donné le virus du sida. Donc, conclusion, l'émergence, c'est ce que je dirais le plus important pour les virus. Alors, je ne vais pas commenter tout ça, je vais le passer assez vite. Alors, si vous m'accordez, mettons, allez, 10 minutes, je peux vous prendre quelques exemples. Alors, la fièvre dengue, c'est transmis par les moustiques. Ça s'appelle aussi la grippe tropicale ou la fièvre rouge. Dans un petit pourcentage de cas, ça fait des fièvres hémorragiques à syndrome rénal qui tuent les gens. Alors, en 70, la fièvre dengue était répartie sur les tropiques, comme ça. Vous voyez qu'il n'y en avait pas beaucoup partout, enfin il n'y en avait pas partout, excusez-moi. Et il y a 4 virus dengue différents, et les 4 virus dengue étaient répartis rarement au même endroit ensemble. En 2004, enfin vers les années 2000, on s'aperçoit que le nombre de fièvres hémorragiques dengue augmente énormément, et que le nombre de pays touchés augmente énormément. Et en parallèle avec ça, bon, on s'aperçoit que les tropiques et toute la planète est colonisée par les virus, alors qu'avant c'était restreint à certains endroits. Et vous vous apercevez que les 4 virus différents sont maintenant presque tous en même temps aux mêmes endroits. Et ça, c'est important parce que quand on est infecté une fois, c'est grave, mais en général, on s'en sort. Mais quand on est infecté une deuxième fois par un deuxième virus, là, on a un très gros risque de fièvre hémorragique dengue mortelle. Conclusion, il y a des centaines de millions de gens qui sont touchés par ce virus dont on n'a pas vraiment de publicité dans nos pays pour l'instant, bien sûr. Autre exemple, les herpès. Ça, vous ne le savez pas. Voilà, la répartition des 8 virus herpès humains chez l'homme, c'est 90% chez nous ici. Il y a 90% des gens qui ont le virus de la varicelle et qui vont le porter toute leur vie. La varicelle, c'est le zona. C'est-à-dire que vous avez la varicelle quand vous êtes jeune et puis quand vous êtes plus vieux, si vous êtes fatigué immunitairement ou vous êtes déprimé mentalement, vous allez faire une résurgence, ça fera des zonas extrêmement douloureux. Ici, ces deux virus-là, le 6 et le 7, vous ne savez pas ce que c'est la roséole du nouveau-né. Votre maman vous l'a passé en général avant les 3 premières années de votre vie, et vous allez le trimballer toute votre vie avant de le transmettre vous-même à vos enfants. Et puis ici, c'est les virus herpès simplex. Donc il y a 50% d'entre nous ici qui avons le virus herpès simplex et qui l'auront toute notre vie. Le HHV2, c'est l'herpès génital. Bon, ici, c'est les pays développés, c'est encore pire. Alors vous voyez que la proportion, ça veut dire que les virus herpès, il y a environ 4 à 5 milliards de personnes sur la planète qui en sont infectées et qui vont les porter toute leur vie. Autre exemple, c'est les picornavirus et la polio. Alors ça, je vous le montre pour vous bien vous illustrer comment peut être grave une pathologie virale. Ici, c'est un rhume, c'est pas grave. Ici, c'est Saul Kousabi, je ne me rappelle plus, qui porte ces vaccins. Et ici, ça, vous ne savez pas ce que c'est. Ça, c'est des enfants qui sont dans des poumons d'acier. Qu'est-ce que c'est qu'un poumon d'acier? C'est quelque chose qui va remplacer vos muscles de la paroi, de la cage thoracique, excusez-moi, pour permettre à vos poumons de respirer. Sachez que c'est vos muscles qui vous font remplir et vider vos poumons, et que si les muscles ne sont pas innervés, vous ne respirez pas et vous mourrez d'asphyxie. Le virus qui provoque la poliomyélite est un virus qui touche le système nerveux central et les motoneurones. Donc les enfants qui ont la poliomyélite et qui ont les formes les plus graves ne peuvent plus respirer. Conclusion, ils étaient enfermés dans ces poumons d'acier toute leur vie, qui leur permettaient l'assistance respiratoire. Ça n'existe plus maintenant, heureusement, puisque le poumon d'acier est rentré dans les musées. Mais quand vous allez dans le tiers-monde, ou que vous allez en Amérique du Sud, ou en Afrique, ou en Asie, si vous n'avez pas à jour votre vaccin contre la polio, vous risquez d'attraper la polio et d'avoir des paralysies de ce type. Ça, c'est une photo actuelle. Donc ça existe encore, alors qu'il y a une vaccination qui est extrêmement efficace. L'éradication par l'OMS disait qu'en 2008, on devrait pouvoir contrôler et éradiquer la poliomyélite. En réalité, et pour des raisons dans le détail desquelles je ne rentrerai pas, parce que ce serait aussi 3 heures de cours si on voulait, ici, il y a la démarche de l'OMS. Donc, notamment en 2007, la poliomyélite devait être contenue uniquement dans les laboratoires de recherche et les laboratoires médicaux. Et en 2008, on devait certifier l'éradication globale de la poliomyélite sur la planète. Vous savez que ce n'est pas vrai, puisque maintenant, en 2008, il y a encore de la polio. Il y a eu des émergences d'épidémies de poliomyélite à Madagascar en 2003-2004. Donc tout ça pour dire que le monde viral est compliqué. Je passe vite sur le vaccin papillome, cancer du col de l'utérus, avec deux formes virales qui représentent 65% des risques. Et surtout, pour arriver à ça, en mars 2007, un vaccin qui était testé depuis 2004-2005 a été approuvé pour le remboursement. Et donc maintenant, on préconise la vaccination chez les jeunes filles de 14 ans contre le cancer du col de l'utérus et contre toutes les affections de la sphère anogénitale. Ce n'est pas forcément les cancers, hein, ça peut être aussi des condylomes ou des grosses verrues génitales. Un vaccin qui est donc testé efficace à 100%, sans recul, excusez-moi. C'est-à-dire que le vaccin a été mis sur le marché en 2006-2007. On n'a pas 20 ans de recul pour savoir s'il marche bien. On sait qu'il marche sur les essais qui ont été faits et on sait que maintenant il y a un vaccin anticancéreux contre une des maladies sexuellement transmissibles les plus courantes de la planète. Bon, les virus des gastro-entérites, pareil, je vous rappelle ça vite. Premiers essais en 99 qui avaient été arrêtés parce qu'il y avait eu des invaginations de l'intestin chez certains enfants. Donc le vaccin a été arrêté, alors que le peu de pourcentage de cas d'invagination aurait dû le continuer dans les pays du tiers-monde, parce que là, ça tue beaucoup d'enfants. Chez nous, une gastro-entérite virale, c'est pas grave. Quand c'est grave, on va aux urgences, on fait une perfusion de sérum physiologique au nouveau-né, et c'est réglé. Dans le tiers-monde, ça tue. C'est pour ça que le vaccin était important à garder quand même. Cela dit, il a été interdit aux États-Unis, il a été arrêté. Et puis, récemment, il y a deux vaccins qui ont été mis sur le marché qui marchent bien maintenant et qui permettent de protéger les nourrissons et les enfants jeunes contre les gastro-entérites virales qui sont très importantes. Le but, c'est de mettre ces vaccins au niveau de l'OMS pour traiter les enfants au niveau du tiers-monde. Et puis le sida, et on va terminer là-dessus, et je vous remercie de votre attention pour avoir continué un petit peu alors qu'on a dépassé un petit peu le temps. Le sida, c'est pour ça que je tenais à en parler, c'est qu'on a enfin, on est enfin descendu en dessous des 3 millions de morts et des 4 millions de nouveaux cas par an. C'est la plus grande pandémie qu'on ait jamais vue sur la planète. Ça a dépassé la peste noire du Moyen-Âge. Ça a dépassé la grippe espagnole de 1918 qui va entre 20, 40, peut-être 60 millions de morts. Et ça a atteint, ça va faire au moins 60 millions de morts avec tous les cas de gens qui sont déjà décédés et des gens qui sont infectés. On constate quand même que pour une fois, on descend en dessous des 3 millions de morts. Donc il y a du progrès. Cela dit, Le gros problème avec le sida, c'est qu'il n'y a pas de vaccin, on va voir ça juste après. Et surtout que vous avez encore en 2007, hein, c'est les données très récentes de l'ONU sida, vous avez encore 2,5 millions de cas de nouvelles infections sur la planète dues au virus du sida. Ça veut dire que sans vaccin, sans molécule antivirale qui traite à coup sûr, et 2,5 millions de nouveaux cas par an, on est loin d'éradiquer le virus du sida de la planète. Bon, cela dit, un peu d'optimisme, vous savez qu'il y a un traitement antiviral qui s'appelle la trithérapie. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas d'éradication, pour des raisons très compliquées, fondamentales, dans le détail desquelles je ne rentrerai pas. Donc il y a une trithérapie. Il y a aussi énormément de stratégies vaccinales qui sont testées. Je vous ai mis un résumé, là c'est tout 2006. 2007 a dû sortir ces jours-ci, mais je n'ai pas eu le temps d'aller le chercher. C'est pour vous dire qu'il y a eu des dizaines d'essais de vaccination contre le virus du sida, qui techniquement donnent une réponse, ça répond bien, mais qui ne fournissent aucune protection. Ça, c'est parce que le virus a une capacité de variation tellement grande qu'il est le vaccin, le temps qu'il se mette en place, ne pourra pas traiter les gens puisque le virus sera muté entre-temps. Et puis, dernière chose quand même, il y a des gens qui n'ont jamais le sida. Certaines personnes n'ont jamais le sida. Alors, il y a des gens qui ne sont jamais infectés, pour des raisons dans le détail desquelles je ne rentrerai pas. Il y a des gens qui progressent très lentement vers le sida, qui peuvent avoir le virus pendant des dizaines d'années sans pathologie. Et puis il y a des gens qui sont constamment infectés et qui n'ont jamais le sida. Alors ça, c'est le cas des prostituées de Nairobi. Alors ça, c'est parce que les chercheurs ont trouvé des cas particuliers parmi ces personnes. Des personnes qui sont infectées avec des clients, avec 25% de taux d'infection chez les clients qu'elles voient toute la journée. Donc elles sont toute la journée infectées, multi-infectées. Et ces personnes-là possèdent des antigènes HLA très rares. Alors HLA, vous savez, c'est les antigènes qui vont définir la réponse immunitaire. Et ces personnes sont capables de développer une réponse immunitaire avec des anticorps qui vont neutraliser le virus. Si quelqu'un est infecté par le virus du sida, il a toujours des anticorps neutralisants. Mais le virus, par sa fuite en avant, a toujours muté avant que les anticorps arrivent. Chez ces personnes-là, les anticorps sont efficaces et vont plus vite que le virus. Et ça, on ne comprend pas pourquoi. Hein, c'est des personnes qui sont très très favorisées par la nature. Leur système immunitaire leur permet de se protéger. Et donc ces personnes-là sont protégées. Et évidemment, c'est un champ de recherche fondamental pour les scientifiques très important. Autre point, et je vais terminer là-dessus, c'est que ces personnes sont protégées si elles travaillent, entre guillemets. Si elles arrêtent de travailler et que leur système immunitaire n'est pas stimulé, elles deviennent séropositives et risquent de développer le sida. Donc ça veut dire vraiment que dans le cas du sida, c'est un équilibre entre le système immunitaire et le virus, mais ça je vous l'ai dit, c'est pas là pour tous les virus. Je dirais que c'est encore pire dans le cas du sida. Voilà, conclusion, et je vous remercie d'avoir patienté un petit peu plus longtemps. Bon, les virus peuvent être utiles quand même. La thérapie génique, ça utilise des vecteurs viraux. Là aussi, je pourrais faire 15 heures de cours là-dessus, mais c'est pas l'objet. Notamment, il y a un vaccin contre la rage qui a été développé pour traiter les mammifères de l'Europe. On donne des vaccins contre la rage aux renards de l'Europe du Nord. Et c'est un vaccin qui est fait à partir d'un autre virus. Et puis, je me suis trompé, excusez-moi. Conclusion, la vraie, est-ce qu'on va être un jour protégé des infections virales et des autres pathogènes? Alors, beaucoup de grands scientifiques, je vous traduis pas, disait dans les années 70-80, « Oh, vous inquiétez pas, avec ce qu'on sait faire, nous, en science, bientôt, il n'y aura plus d'infection virale sur la planète. » Et puis, juste en même temps, dans les mêmes périodes, voici toutes les infections qui ont été découvertes par des virus ou des microbes dans les années 73 jusqu'à 99. Si je résume simplement, ils se sont complètement plantés. Il est impossible de dominer le monde microbien parce qu'il y a des centaines, voire des milliers de microbes mais aussi de virus que nous ne connaissons pas et qu'il y a, comme vous l'avez compris, de nombreuses possibilités pour un virus de devenir infectieux et pathogène alors qu'avant il ne l'était pas. Nous avons des protections, mais il y a plein de virus contre lesquels on n'a pas de protection. Les virus varient énormément, donc on n'a pas de molécule antivirale efficace. Bref, je résume, sommes-nous protégés contre toutes les émergences virales? Non, bien sûr. Et donc, ça veut dire que la recherche en virologie a de beaux jours devant elle, si tout se passe bien au niveau de notre cher président. Voilà. Merci de votre attention.